Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur.
Bonjour, vous êtes sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire Dromardèche. D'abord, en ce début d'année, on ne peut que vous souhaiter une belle et heureuse année sans nucléaire et sans dégâts nucléaires surtout. Et nous allons attaquer cette première année avec une militante japonaise, française et japonaise, Kurumi Sugita, qui est une anthropologue, qui travaille sur Grenoble, elle est à la retraite maintenant, et qui va nous parler d'un projet qui va se passer au mois de mars. Avant cela, bien, nos billettistes sont présentes et c'est Céline qui veut nous parler des folles de la place, non pas de Mai, mais là de la place Porte-Neuve à Valence.
C'est ça. Donc on connaissait les folles de la place de Mai et connaissez-vous les obstinés de la place Porte-Neuve à Valence ? Depuis 4 ans, tous les samedis matin, ils sont présents sur cette place très passante de 11h à 12h30.
Alors, ils tirent un bilan un petit peu de leur présence depuis plusieurs années, 4 ans.
Oui, tout à fait. Donc déjà, pour rappeler, donc, ce sont des membres de notre association Stop Nucléaire en Dromardèche qui sont présents sur cette place et qui entament la discussion avec les passants. Donc le bilan, effectivement, ils n'ont pas réussi à motiver beaucoup de personnes pour rejoindre les réunions mensuelles de Stop Nucléaire, mais pourtant, ils ont rencontré des gens très intéressés et reconnaissants pour ce travail d'information. On leur dit souvent, c'est bien ce que vous faites.
Bon, donc il y a un aspect très positif à leur action. En tout cas, c'est le bilan qu'ils en tirent.
C'est ça. Grâce au superbe visuel qu'est la belle carte de la région Rhône-Alpes qu'ils arborent, ils captent le regard des passants, ce qui permet souvent d'enclencher une discussion et un échange. Les passants rencontrés sont souvent inquiets de façon diffuse et demandent ce qu'ils peuvent faire. Les obstinés leur expliquent que s'ils sont informés, ils peuvent faire suivre cette information, nous soutenir en adhérant au moins à notre association, même s'ils ne peuvent pas militer activement, comme les jeunes couples avec de jeunes enfants par exemple. On s'aperçoit que tout doucement, le nombre d'adhérents progresse. Qui sont-ils ? Comment ont-ils connu Stop Nucléaire en Dromardèche ? Est-ce que c'est grâce notamment à cette action ? Les discussions avec les passants donnent également des idées, notamment celle d'élaborer un nouveau flyer sous forme d'un questionnaire à choix multiples, humoristique, dramatique, réaliste. On n'a pas encore bien de retour sur cette action, mais voilà, c'est tout récent. Il y a également une nouvelle idée qui a germé de ces échanges sur la place Porte-Neuve, celle de diffuser les billets réalisés dans l'émission Atomic Mac aux passants, puisque en général, ce sont des informations récentes et voilà.
Et bien rédigées.
Et bien rédigées. Donc ça, cette action démarrera dès janvier, dès les prochains rendez-vous place Porte-Neuve. L'action des obstinés de Porte-Neuve, tous les samedis, est une vitrine hebdomadaire de notre association, comme l'émission que vous écoutez à l'heure actuelle. C'est aussi surtout une action de terrain au contact direct des citoyens. Son but est d'informer, de rappeler le sujet du nucléaire. Et Stop du Nucléaire Dromardèche a peu de moyens finalement pour diffuser de l'information. Et celui d'être présent sur la place Porte-Neuve, est le plus simple à organiser. Il suffit d'être présent samedi après samedi. Et le plus efficace possible, puisque les obstinés sont en contact direct avec des centaines de personnes. À noter, une question qui arrive régulièrement aux oreilles des obstinés, vous connaissez la Kérad ? Et bien évidemment, on répond qu'on travaille régulièrement avec eux.
Et bon, quand on est présent sur une place comme ça, il y a aussi quelques perles, quand même, un petit peu, dans les réactions des personnes que l'on rencontre.
C'est ça. Alors, la perle classique, c'est « Alors, vous voulez revenir à la bougie ?»
Bien sûr.
Bien sûr, donc ça, on l'entend tout le temps. Et sinon, une perle assez bonne, quand même. « Non, il n'y a pas eu de mort à Tchernobyl. Les morts, à cette époque, c'était en Allemagne. » Donc là, la personne de chez nous, interloquée, reçoit l'explication. « Mais oui, il y a eu 1500 femmes qui se sont faites avorter. » Il n'y a pas autant de ce genre de choses. Ou alors une autre réaction. Mais ma pauvre dame, à Fukushima, il n'y a eu qu'un seul mort.
Donc l'avenir à dehors de cette porte neuve, on continue ?
Eh bien oui, bien sûr, on continue. L'action a montré ses preuves et voilà. Les concitoyens, on se rend compte que les concitoyens ont connaissance plus que limitée de l'industrie nucléaire qui les entoure, que ce soit des installations nucléaires de base ou les transports. et voilà, ainsi que tous les impacts potentiels sur leur vie. Donc c'est intéressant de battre le pavé pour rattraper 40 ans de non-information et de désinformation. Et c'est l'objectif de cette action des obstinés de la place Porte-Neuve.
Et il faut venir leur prêter
main forte.
Tous les samedis midi, donc sur la Porte-Neuve, près du marché. Annie, tu veux nous parler d'Areva?
Oui, je voudrais parler d'Areva et de sa difficile recapitalisation. Et je dois avouer que c'est un billet difficile à écrire. Alors nous voici le 2 janvier et il est encore temps d'échanger sur les cadeaux que le Père Noël a pu vous faire. Avez-vous pensé à offrir à vos enfants un petit morceau d'Areva? Vous savez, le fleuron de l'industrie nucléaire française. Eh bien, si vous n'y avez pas songé, sachez que les Pères Noël japonais et chinois y pensent sérieusement, même ceux du Kazakhstan. Alors, cela vous chatouille ou vous gratouille? Le 15 décembre, M. Knock, directeur d'Areva, a annoncé avoir reçu des offres fermes d'investisseurs qui proposent 500 millions d'euros pour entrer au capital du nouvel Areva, rebaptisé Newco. Les identités précises de ces investisseurs ne sont pas encore officiellement dévoilées, mais Areva et l'État français affirment, je cite, « ne pas être prêts à avoir des actionnaires dans des conditions qui ne seraient pas acceptables ». Ouf, nous voici rassurés. Mais revenons quelques années en arrière pour mieux comprendre. En 2001, on célébrait le mariage de Framatome et de Kojima pour obtenir Areva. Mais cumulant 10 milliards d'euros de pertes en 2011 et 2015, ainsi qu'une lourde dette de 7 milliards, Areva est en grande difficulté et doit être recapitalisé. Ainsi, en 2017, bonne année donc, Areva se scindera en deux entreprises, Areva SA et Newco. La première, Areva SA, doit gérer le passif du groupe, dont celui de l'EPR finlandais, et élague ainsi diverses branches comme, en cédant à EDF l'activité fabrication et maintenance des réacteurs avec en bonus EPR et Atmea, en cédant à l'État les moteurs des sous-marins nucléaires, en cédant les énergies renouvelables, les appareils de mesure de la radioactivité, et en s'engageant sur un plan d'économie drastique supprimant plus de 5000 emplois dans le monde. En fait, il faut montrer à Bruxelles qu'Areva n'est pas un canard boiteux que l'État français subventionnerait à fonds perdu en tant qu'actionnaire à 87%. Et puis, deuxième morceau, il y a Newco, l'Areva nouveau. Newco abritera les activités du cycle combustible, c'est-à-dire extraction et enrichissement de l'uranium, recyclage des déchets, démantèlement des centrales. Newco bénéficiera de 3 milliards d'euros pour renforcer son bilan et assurer son développement. L'État français restera actionnaire à plus de 67% après la recapitalisation de Newco. Mais à qui les 33% restants? C'est là que Japonais et Chinois se portent acquéreurs de notre fleuron français. Fleuron qui pèsera alors deux fois moins que l'actuel groupe, deux fois moins d'employés, 40 000, un chiffre d'affaires divisé par deux. Et oui, le marché nucléaire reste difficile, reconnaît l'actuel directeur M. Knock. Et l'état de santé d'Areva est très fragile. Il y a urgence, car Areva ne passera pas 2017 sans argent frais, donc sans recapitalisation. Areva est bien malade ainsi, et dès le 3 février 2017, une assemblée générale est convoquée à son chevet. Devrait s'en suivre une assemblée pour Newco, soyons attentifs. Mais quand il s'agit de lobby nucléaire, d'argent public gaspillé, de braderie, vous pouvez compter sur Stop Nucléaire 2607 pour vous tenir au courant dès la prochaine émission d'Atomic Mac.
Eh bien merci Annie, nous allons suivre Areva tout au long de cette année, effectivement c'est l'échec patent de l'industrie nucléaire. Un petit peu de musique avec les éoliennes de Gaëtan Roussel.
Petit drapeau de plage coloré, Mistral chasseur de nuages, laissons-les souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons les brises caresser les mollets, de coq les jolies gambettes, faire forger des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler, laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé, s'évader toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé, s'évader toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Simple va-et-vient, odyssée traversée, le long des falaises sillonnées. Vouloir les avant, les que sais-je, les après, souffler dans le ciel bleuté de l'été. Laissons la bise caresser les mollets de coq les jolies gambettes, faire forger des filles ou des girouettes au perché. Laissons les courants d'air frais circuler, laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé, s'évader toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé, s'évader toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Que nos existences contiennent s'envoler. Laissons tout le vent enfermé. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé, s'évader. Au fond de nos postes de télé, s'évader toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler. Laissons tout le vent enfermé au fond de nos postes de télé, s'évader toute l'énergie éolienne que nos existences contiennent à s'envoler.
Bonjour, vous êtes toujours sur Atomic Mac, l'émission de Stop Nucléaire. Nous sommes avec Kurumi Sugita. Kurumi, vous m'entendez bien ?
Oui, j'entends très bien.
Eh bien, écoutez, la communication est parfaite, c'est merveilleux. Voilà, mon technicien qui est ravi. Vous êtes anthropologue, chargé de recherche, ex-chargé de recherche, parce que vous êtes à la retraite maintenant au CNRS, oui, à l'UNS de Lyon. Oui. Vos travaux portaient sur la comparaison internationale des organisations du travail et des systèmes d'emploi. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur ces thèmes entre Brésil, France, Japon. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous présenter la tournée d'une délégation japonaise au mois de mars, qui vient de la ville de Nami, dans le département de Fukushima et de Hiroshima également. Donc c'est une délégation très représentative. Cette tournée, elle va se faire autour d'un film Munen, qui s'appelle Remords en français, et d'une présentation d'un conte sous forme de Kamishibai, je me suis souvenu du nom. Vous allez nous expliquer en quoi cela consiste. Mais vous revenez également du Japon, vous y étiez au mois de décembre. Première question un petit peu, bientôt six ans après Fukushima, la situation au Japon aujourd'hui, notamment chez les réfugiés, comment ça se présente ?
Eh bien, il faut d'abord dire que l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi n'est pas encore terminé. Donc, c'est toujours un accident en cours. Il y a des contaminations par des eaux et aussi par l'air. Et la situation de déplacés, c'est quand même assez menaçante parce que il y a la politique de retour. Il y a le lever de l'ordre d'évacuation qui a déjà été appliqué pour 6 communes. Et pour le reste, ça va être la fin du mois de mars l'année prochaine. Cette année déjà, pardon. Oui. Et en laissant quand même certaines zones qui sont appelées zones difficiles à retourner, qui va rester encore sous l'ordre d'évacuation. Alors, le problème, c'est que l'aide publique va s'arrêter en ce qui concerne des évacués de zones sous l'ordre d'évacuation. Ça va s'arrêter au mois de mars l'année prochaine. Et pour des gens qui ont fui en dehors des zones, enfin, à partir des zones qui se situent en dehors des zones d'évacuation par ordre, bon, l'aide au logement qu'ils bénéficient jusqu'à présent va s'arrêter à la fin du mois de mars cette année.
Donc, si je comprends bien, toutes les personnes qui ont été évacuées, qui n'ont pas retrouvé de travail, qui ne se sont pas encore restabilisées, vont être quasiment obligées de revenir sur leurs anciennes habitations, quoi, si toutes les aides s'arrêtent.
C'est cela. Oui, c'est cela. Alors, ça pose plusieurs problèmes. D'abord, la zone, malgré la déclaration de gouvernement, elle reste quand même contaminée, donc la population n'est pas rassurée. Et d'autre part, l'infrastructure n'est pas encore sur place, donc c'est pas vraiment dans l'état de pouvoir vivre de manière, enfin, normalement. Et puis, il y a très peu de gens qui sont retournés, donc la zone, même pour les zones qui sont déjà ouvertes, c'est pas très très rassurant de vivre pendant la nuit. Par exemple, il y a très peu de lumière, et puis la zone est, enfin, ça dépend de zone, mais dans beaucoup de cas, les maisons ont saccagé par des animaux sauvages parce qu'il n'y avait personne sur le lieu.
Oui,
c'est pas vraiment l'état pour.
On imagine après 6 ans d'abandon, le fait de revenir sur place, en plus de la radioactivité, n'est pas évident. Alors parlons justement maintenant un peu de cette délégation qui vient. Elle vient donc d'un village, d'une petite ville, Nami, qui est près de la préfecture, dans la préfecture.
C'est assez grand. Hein, la commune de Namié est très étendue.
Namié,
oui.
D'accord. Et puis de d'Hiroshima. Cette délégation, donc, ce sont des gens déplacés. Qu'est-ce qu'ils viennent présenter un film. Alors, quelle est un peu la démarche? Comment ils ont fait ce film et pourquoi ils le présentent?
Voilà. Alors, c'est l'issue de théâtre de papier, enfin, comme vous avez dit, Kamishibai.
Kamishibai.
Oui. Le sujet, c'est... excusez-moi. C'est sur les sapeurs-pompiers de ville de Namié, qui était victime de triple catastrophe, c'est-à-dire tremblement de terre, tsunami et l'accident nucléaire. Alors, cette équipe de pompiers volontaires, hein, bénévoles, ils ont dû arrêter les actifs de secours alors qu'ils savaient très bien qu'il y avait des gens qui attendaient le secours sous le débris. Mais ils ont dû arrêter à cause de l'accident de la centrale nucléaire. Donc ces gens-là sont tourmentés par leur conscience. Pourquoi j'ai arrêté, je n'ai pas pu porter secours à ces gens-là. Et cette histoire a été reprise dans le théâtre de papier. Ensuite, ça a été transformé en film animé.
D'accord.
Et ce sont des évacués, des victimes de l'accident qui ont participé dans ce film et ce sont ces gens-là qui comptent avec le dessin de Kamishibai et c'est eux qui font les voix dans le film.
D'accord, donc ils sont en fait les acteurs. Alors il y a un metteur en scène, j'imagine. Le film, il a été fait dans quelle année? C'est l'année 2016-2015?
C'est sorti dans 2015, oui.
D'accord. Donc ce film a déjà tourné au Japon, et là c'est une tournée, on va dire, internationale qui est en train de s'organiser.
Oui, ceci dit, ce n'est pas commercialisé, donc le film n'est pas montré au Japon dans des salles commerciales. Ce sont des gens qui se réunissent pour projeter ce film et en invitant le réalisateur ou les évacués qui ont participé dans cette création. Donc c'est la même chose qui va se passer en France, et à Lyon, à Grenoble, à Valence et à Paris, et des gens se réunissent pour le faire venir. Enfin, ils souvent s'autofinancer, mais c'est quand même l'initiative des gens sur place qui les invitent.
Donc c'est donc une belle initiative déjà, ce film va être c'est une sorte d'appui pour permettre aux réfugiés de parler et de raconter un peu ce qui leur est arrivé.
Oui.
Voilà. Bon,
oui.
Nous allons y revenir tout de suite, juste après la chanson, une toute petite dernière question avant qu'on engage la chanson.
Oui.
Kumushibai, théâtre de papier, ce que je vous propose, on écoute la chanson, puis on va parler un peu de ces Kumushibai, comment ça fonctionne,
oui,
et quelle est l'idée,
oui,
qu'il y a derrière. Voilà,
oui.
Eh bien, on va écouter, eh bien, je cherche mon truc, Tokyo Eyes d'Olivia Ruiz. Alors, nous sommes toujours avec Nirumi Sugita et nous parlons,
oui,
du film Munen, pardon,
oui,
excusez-moi, et un film réalisé avec le concours donc, de la population locale de Namié. On parlait donc,
oui,
de ce film, et ce film, ça part en fait d'une pratique qui est japonaise, ce théâtre de papier. Alors, parlez-nous un petit peu de ce théâtre de papier, en quoi ça consiste?
Oui. Oui, bah, ça existait depuis longtemps, hein. Enfin, ça existait lorsque j'étais petite. Enfin, ça se présente avec un très simple cadre en bois, et à l'intérieur, il y a des dessins qu'on voit, et on raconte l'histoire, et au fur et à mesure, on change le dessin. Alors, cette pratique a été adoptée par des victimes de bombes atomiques de Hiroshima, par des équipes de conteurs qui donc transmettent leur expérience vécue en tant qu'Ibakusha irradiée de la bombe atomique de Hiroshima. Or, pour beaucoup d'entre eux, c'est très difficile de parler de leur propre expérience à cause de l'émotion, donc c'est un peu la défense personnelle qui intervient. Donc, ils ont adopté ce théâtre de papier pour leur donner un outil pour raconter l'histoire, parce que ça crée un peu de distance avec leur propre expérience, et comme ça, ils peuvent parler des expériences et des survécus. Alors, cette pratique a été tout de suite reprise par des victimes de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Donc là, il y a des équipes qui sont formées à Fukushima, et ces compteurs déambulent au Japon avec cet outil pour compter, pour transmettre leur vécu de l'accident nucléaire en tant qu'évacués.
Et il n'y a pas eu de difficulté, enfin, on imagine, pour des gens qui sont en situation d'évacuation, donc loin de chez eux, etc. Ça a été justement ce compte une bonne façon de leur permettre de s'exprimer, ça s'est fait facilement?
Tout à fait. Voilà, donc ça leur a donné un peu même la raison d'être, parce que ces gens-là n'avaient plus aucune activité, ils sont loin de la maison, ils sont confinés dans de petits espaces qui est logement temporaire, donc ça leur donnait un peu, enfin vraiment les activités, enfin la raison d'être pour un sens dans leur vie.
D'accord. Alors donc à partir de ce spectacle de théâtre, l'idée du film est venue comment ? C'est par le biais d'une initiative d'un metteur en scène, ou c'est le groupe lui-même qui a décidé de filmer un peu ce théâtre de papier?
C'est un peu l'ensemble de ces gens-là. Le metteur en scène, il est aussi dessinateur de Kamishibai. Et lui, il est de Hiroshima. Il est deuxième génération de Hibakusha, irradié. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu ensemble de personnes. Mais bien sûr, comme c'est le réalisateur qui est, enfin, le créateur de Kamishibai, je pense qu'il a pris une très forte initiative. Et ensuite, ils ont fait de crowdfunding, donc, de financement par, de appel à financement par Internet. Et ça a marché. Mais il faut pas penser que c'est comme un dessin animé japonais, parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup de financement, c'est juste le dessin qui bouge, c'est tout. Mais ce qui est important pour moi, c'est que ça a été créé par des victimes eux-mêmes.
Voilà, et comme une façon, donc, comme on le disait, pour eux de pouvoir faire ressortir. Comment la tournée de ce film au Japon, comment elle a été perçue par à la fois par d'autres personnes qui participaient pas à ce théâtre au départ, et par le public?
Alors, ça a été un grand succès. Il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises partout au Japon, et des couches très différentes des gens ont vu, y compris du point de vue de classe d'âge. Et ça a été montré à l'école, ça a été montré, beaucoup de personnes, de hommes et femmes, de tous les âges ont vu. Et ça a été un grand succès. Je crois qu'il y a en tout, actuellement, à peu près 30 000 personnes qui ont visualisé.
Oui, d'accord. Donc, vraiment une expérience. Est-ce qu'il y a d'autres villes autour de Fukushima se sont tentées un petit peu à ce théâtre de papier aussi? Peut-être pas au film, mais au moins à faire ce genre d'expression orale de conte, quoi.
Ça se développe également. En fait, ces activités de Kamishibai, théâtre de papier, c'est étendu dans la zone nord-est du Japon, c'est-à-dire la zone qui a été touchée par le séisme et le tsunami. Donc, ça existe en dehors de Fukushima aussi. Ils sont très actifs. Hein.
Alors maintenant, maintenant on va parler un petit peu de ce qui va se passer en France et puis à Valence. L'idée de venir à l'étranger, elle est venue comment? Ça a été une demande venant d'associations étrangères, ou c'est ces populations, les créateurs un petit peu de ce théâtre de papier qui ont décidé d'aller montrer ça en France et ailleurs?
Non, en fait, c'est une autre initiative. Enfin, nous étant l'association Nos Voisins Lointains 3.11, située à Lyon, et plus précisément moi-même, je fais des échanges avec des évacués et des gens qui les aident par biais de Facebook. Et un jour, j'ai vu le Facebook de réalisateur parlait de ce film qui n'était pas encore terminé. Et donc, je lui ai écrit tout de suite, et il m'a envoyé le fichier quand le film a été a achevé. Et donc, l'association a proposé de faire le sous-titre français. Et par la suite, c'est le réalisateur et puis les évacués de Namié qui ont demandé si c'était possible de venir en France projeter.
Alors, ce film va passer à Valence, on parlera des autres villes après, va passer à Valence le mardi 20... 21, me fait ton signe, le mardi 21, c'est moi qui me trompe dans les dates, le mardi 21 oui. à Valence, au cinéma Le Navire. Oui. Alors, la décision qu'on a prise, c'était de faire le spectacle d'abord de conte, un petit peu, ce théâtre de papier.
Quelque oui.
Et puis de passer le film et d'avoir un débat par la suite. Comment on peut intéresser je pense que beaucoup de personnes en France vont être intéressées par voir ça. Ce théâtre de papier, est-ce qu'il serait possible de le reconstituer dans un pays comme la France? Ou est-ce que c'est vraiment qu'une tradition japonaise?
Non, justement, le souhait de ces Japonais, enfin la délégation japonaise, c'est de nouer des relations durables avec les Français. Et ils se demandent justement si c'était possible de former même sorte d'équipe de Mishibai, ce théâtre de papier, en France. Et il se propose de fournir toutes les aides, y compris le théâtre en bois, et ils peuvent envoyer le dessin, ils peuvent même créer les histoires à notre demande. Donc je pense que si on peut engager les gens, et si ça peut marcher, ça va être un bel exemple de coopération, de solidarité entre la France et le Japon.
Oh oui, tout à fait. C'est un petit peu l'idée de la discussion dans Stop Nucléaire a été un petit peu là-dessus aussi. C'était de se dire que on se contentait pas d'être spectateur, mais qu'on pourrait mettre en place peut-être également ce théâtre de papier avec des habitants de Valence. Donc là, on fait appel à nos auditeurs de Valence pour participer le mardi 21 à cette présentation et du film et du théâtre de papier et du coup à avoir des idées de participer quoi. Alors votre agenda pour la tournée française.
Oui, alors il y aura la projection à Lyon le samedi 18 mars, et puis à Grenoble le mercredi 22 mars, et à Paris le samedi 25 mars.
D'accord, donc c'est la délégation arrive à Lyon le 16 mars, c'est ça ? Repart le 26, c'est ils sont ça. 10 jours en France, quoi.
C'est ça, oui.
Donc,
oui.
Vous prévoyez également autour... Bon, il y aura des rencontres avec les spectateurs, avec les Français autour des films. Vous prévoyez d'autres rencontres, autrement des réunions, d'autres rencontres que la présentation du film et du théâtre de papier ?
Alors, il se trouve qu'à Valence, on peut faire la présentation de Kamishibai et la projection de film ensemble, mais à Lyon et Grenoble, les dates que je vous ai données, c'est seulement la projection et débat. Alors, pour le Kamishibai, pour présentation de Kamishibai et puis la réunion, afin de savoir si c'est possible de créer une équipe sur place, les dates ne sont pas encore fixées.
D'accord, bon,
mais il y aura d'autres dates.
On fera passer, on va rester en contact de toute façon jusqu'au mois de mars pour donner régulièrement des informations sur comment évolue ce projet. Bah écoute, on te remercie beaucoup, Kurimiz.
Merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion.
Bah nous, on est ravis aussi de ce projet. C'est Kamishibai nous tente beaucoup et on pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire pour parler de ce qui s'est passé à Fukushima autrement que par des informations sur l'industrie nucléaire, mais en parlant de la population.
Voilà, c'est vraiment la voix des gens des évacués, ils vont parler de leur propre expérience.
Eh bien, nous allons régulièrement jusqu'au mois de mars donner des informations sur ce projet. Merci beaucoup encore et nous allons passer à notre intox désintox. Et vas-y, Jeanne.
Alors, moi, je vais vous parler de ce qui est arrivé à Yannick Rousselet. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu l'information de la perquisition à son domicile, tant elle a été peu relayée. Donc, le domicile de Yannick Rousselet, spécialiste de la question du nucléaire pour Greenpeace, a été perquisitionné le mardi 13 décembre 2016 par la Direction générale de la sécurité intérieure, DGSI. Yannick et les siens ont perdu toutes leurs données personnelles. C'est le procureur de la République de Paris qui a ordonné cette perquisition suite à un dépôt de plainte pour compromission du secret de la défense nationale. Yannick Rousselet sera convoqué courant janvier 2017 pour une garde à vue et interrogé sur l'information sur les transports nucléaires.
Alors Yannick ne semblait pas savoir exactement quel était l'objet de cette convocation.
Voilà. Donc les membres de Greenpeace assument toujours ce qu'ils font et travaillent en toute transparence. Yannick Rousselet, non seulement chargé de la campagne nucléaire pour Greenpeace France, mais également membre nommé par le ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire. La DGSI va trouver sans nul doute des documents sur le nucléaire chez un membre de ce Haut Comité. Comment pourrait-il en être autrement ? Quant aux informations sur les transports, rappelons que c'est en grande partie à cause de la campagne de Greenpeace appelée Stop Plutonium que l'envoi de l'uranium de retraitement de la France vers la Russie s'est arrêté en 2010. La campagne consistant principalement à arrêter les convois et à informer les populations du danger de ces transports. Que cherche l'État à opposer le secret défense ? Enfin bon, c'est toujours les mêmes histoires. Alors, il y a une autre possibilité, quoi, une autre interrogation, puisqu'on ne sait pas encore. Hein. C'est la plainte déposée par Greenpeace en novembre 2016 au parquet national financier contre EDF et son PDG Jean-Bernard Lévy pour délit boursier qui irrite...
Oui, ça c'est peut-être ça. Alors, en quoi consistait cette plainte exactement déposée par Greenpeace ?
Alors, EDF est soupçonné de trafiquer ses comptes en masquant la réalité de la situation financière dans ses résultats. EDF dissimule une grosse partie des coûts qu'elle devait provisionner, entre 50 et 70 milliards d'euros pour le démantèlement et la gestion des déchets nucléaires. Par ailleurs, EDF prétend, dans son rapport semestriel de 2016, pouvoir exploiter ses réacteurs jusqu'à 50 ans. Une prolongation de l'ASN ne considère pas ça comme acquis. On avait dit ça, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique la prolongation. Et mettre ça dans un rapport, ça fausse les résultats. Quoi. L'État cherche-t-il à discréditer les antinucléaires pour reléguer au second plan la situation financière dégradée d'EDF ? Ce ne serait pas la première fois. Dans le bouquin « Un président ne devrait pas dire ça », Arrêt sur image a relevé que François Hollande avoue s'être servi de l'état d'urgence pour mettre au pas les écologistes pendant la COP21. Vous vous souvenez des perquisitions administratives et des assignations à résidence ? Les antinucléaires sont-ils le nouvel ennemi intérieur ? Les policiers fatigués par l'état d'urgence ne seraient-ils pas mieux employés ailleurs ?
Merci de ce soutien à nos chers policiers. En tout cas, nous donnerons toutes les informations suite à la convocation de Yannick. Il est hors de question de laisser Yannick Rousselet en garde à vue au mois de janvier. Donc, toutes ces informations seront données par Stop Nucléaire. Notre agenda.
Voilà, on finit avec l'agenda de ce début 2017. Donc, pour commencer, doit se tenir le 7 janvier à Lyon les rencontres nationales contre le crime atomique. Donc c'est une réunion qui est organisée par le mouvement contre le crime atomique, MCCA. Et donc voilà, donc l'idée c'est de rassembler quelques organisations pour travailler.
Toutes les informations du lieu sont mises sur notre site.
Sur le site ou sur le site du MCCA. Voilà, le 15 janvier 2017 se tiendra la réunion du collectif Arrêt du nucléaire, donc auquel nous participons. Donc cette réunion, là encore, vise à fédérer plusieurs groupes pour travailler ensemble. Et donc la réunion se tiendra dans les locaux de Sudrail, Saint-Lazare, à Paris. Voilà. Ensuite, un rendez-vous assez important à la fin du mois de janvier, donc les rencontres de l'écologie au quotidien, à Die. Donc c'est un événement un peu traditionnel à Die. Tous les ans se tient ces rencontres de l'écologie. Donc vous pouvez consulter tout le programme sur le site www.écologieaucotidien.fr. Et nous y participerons le lundi 30 janvier à l'occasion de la projection du film À Bure pour l'éternité. Donc il y aura une projection suivie d'échanges. Et donc Stop Nucléaire en Dromardèche participera. Donc ça se tiendra donc le 30 janvier à 10h. Pour ce qui est du lieu, c'est pas encore précisé. Je vous invite à vous reporter sur le site d'Écologie au quotidien.
C'est dans la petite ville de Die, elle n'est pas grande.
Voilà,
donc
ça
le
va
lieu
être à
Die, bien
mais le lieu, voilà, le lieu précis à préciser. Pour finir, notre traditionnelle réunion mensuelle de notre association, Stop Nucléaire Dromardèche, se tiendra le lundi 23 janvier, je suppose, à la Frappna.
C'est la
tendance du moment. Donc à la Frappna à 18h30. Et enfin, bien sûr, le traditionnel rendez-vous de Place Porte-Neuve. Tous les samedis matins à 11h, venez voir nos obstinés dont on a parlé en début d'émission. Voilà.
Merci Céline. Eh bien, je vous rappelle d'abord, de nouveau, nous vous souhaitons, toute l'équipe vous souhaite à toutes et tous une belle année 2017, avec le moins de nucléaire possible. Dire sans nucléaire encore, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, le moins de nucléaire possible. Vous pouvez nous joindre sur notre répondeur au 08 05 69 67 58. Le numéro est sur notre site internet. Étaient présents aujourd'hui Céline, Annie, Jean-Pierre à la technique, Jeanne et Dominique. Et nous vous quittons.
Et Christine
qui est dans le
fond. Qui a bien travaillé.
Qui a bien travaillé, c'est vrai, j'avais oublié Christine. La date de notre prochaine mission, le 6 février 2017. Et nous vous laissons avec Hard Sun d'Eddie Vedder.
Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big hard sun on the big people in the big hard world. When she comes to greet me, she is mercy at my feet. When I see her pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. There's a big hard sun beating on the big people in the big hard world. Oh, there's a big hard sun beating on the big people in the big hard. That river, she is comfort by my side. When I try to understand, she just opens up her hands. Sun. So I tried.